France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, premier volet d'un entretien avec Jean-Jacques Debout qui se poursuivra la semaine prochaine. Impossible en effet de résister au souvenir si vivant de celui qui commença chez Patachou et Mistinguette, fut le protégé de Charles Trenet, l'ami de Johnny et Sylvie, puis le mari de Chantal Goya. Auteur de « Pour moi la vie va commencer » ou « Comme un garçon », Jean-Jacques Debout est la mémoire vivante du musical, ce qui lui vaut ici une place d'honneur. On le retrouve dans un instant, le temps de quelques vocalises en compagnie de la délicieuse Liliane Berton. Que je l'aime, comme dirait Johnny, dont on va parler tout à l'heure. Elle, c'est Liliane Berton, une merveilleuse soprano française, qui fut d'ailleurs une des premières invitées de cette émission Étonnez-moi Benoît. Elle chantait, vous l'avez reconnu, l'air d'Adèle, alias Arlette dans la version française. Extrait donc de la Chauve-souris de Johann Strauss avec la Société des concerts du Conservatoire sous la direction de Franck Pourcel. Thank you. Et je l'adore aussi, cette petite pièce de Johann Strauss fils. Vous avez vu comment ça commence tout doucement et puis ça enfle très vite. Ça s'appelle Furioso et le compositeur précise Polka quasi gallo, opus 260. Une pièce donc de Johann Strauss interprétée par l'Orchestre Symphonique de Vienne sous la direction de Manfred Honeck.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et je vous l'ai dit, nous allons retrouver donc pour 2 semaines consécutives un invité merveilleux. Merveilleux non seulement parce qu'il a une vie extraordinaire, mais aussi parce qu'il a une mémoire extraordinaire des personnages, des situations, des anecdotes qu'il a traversées, vues avec toujours beaucoup de gourmandise et de curiosité. Il est aussi, bien sûr, l'un des grands auteurs, compositeurs, interprètes de la chanson française depuis la fin des années 50. J'ai la joie d'accueillir ce matin, donc pour le premier épisode, Jean-Jacques Debout.
Il arriva sur la lune par une belle nuit d'été. Il se posa sur la lune en mer de tranquillité. Il faisait un clair de terre merveilleux cette nuit-là. Au bord de la mer lunaire, tout à coup il s'arrêta devant une fille si belle, c'était à devenir fou. Si vous n'êtes pas irréel, comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Galaxie, je suis froide et je suis belle.
Et moi, jolie Galaxie, je suis Léon de Passy. Elle était bien lunatique et lui bien joli garçon. Et d'un amour platonique, Galaxie aima Léon. Mais quand il se fit trop tendre, le temps d'un premier baiser, il enleva son scaphandre, l'air se mit à lui manquer. Et dans les bras de sa belle, il est mort pour un baiser. À présent, il se promène, car il est satellisé.
Je m'appelle Galaxie, je t'envoie ces fleurs nouvelles, elles te suivront dans la nuit. Adieu Léon de Passy.
Plus tard, quand les cosmonautes par là viendront à passer, ils diront c'est un des nôtres, on n'était pas les premiers. Mais ils entendront peut-être parfois là-haut, Galaxie, pleurer une autre planète, pleurer Léon de Passy.
Qui tourne autour de la lune, on voit passer derrière lui une couronne de fleurs de lune, si gît Léon de Passy.
Qui tourne autour de la lune, on voit passer derrière lui une couronne de fleurs de lune.
Thank you.
Bonjour Jean-Jacques Debout.
Bonjour Benoît.
Voilà une bien jolie chanson que vous avez faite en 1968. C'est pas une des plus connues, mais je trouvais qu'elle était joyeuse pour commencer. Et puis alors, il y a belle orchestration signée de
Franck Pourcel.
Quand même.
Oui, parce que j'avais été cette année-là faire du ski à Courchevel.
Oui.
Et je m'étais retrouvé dans un hôtel où il y avait Franck Pourcel, comme tout le monde le sait, qui était très ami de Michel Legrand. Oui. Michel Legrand avait acheté une paire de skis dans le même magasin où moi j'en avais acheté une aussi. Et alors avec Michel et Franck Pourcel et la fille...
Qu'on entend ici, Françoise Pourcel.
Françoise, voilà. Qui était ravie et qui est toujours ravissante sûrement, mais qui vit maintenant à New York.
Oui.
Puisqu'elle elle s'était mariée après avec Alain Boublil quand il a
l'auteur
eu...
L'auteur des comédies musicales.
Des Misérables.
Ouais.
Et donc il est parti vivre à New York. Et il est parti avec elle. Ils auraient divorcé, mais ils ne sont pas fâchés.
Ah bon, voilà. En tout cas, voilà une jolie chanson de, effectivement, 1968. Ça s'appelle Galaxy.
Oui,
hein, voilà.
Oui, c'était Léon de Passy qui, tout d'un coup, s'était pris pour un cosmonaute.
Voilà.
Mais j'aime beaucoup cette chanson. Ça me fait très plaisir de la réentendre.
Alors, moi, ça me fait très plaisir de vous recevoir parce que je me suis dit que, voilà, en ce long hiver, on allait passer deux bons samedis avec vous à raconter votre vie, vos souvenirs. Vous avez connu tout le monde. En plus, vous avez une mémoire exceptionnelle, je dois dire. Mais d'abord, première petite question. Finalement, Jean-Jacques Debout, vous êtes à la fois auteur, compositeur, interprète, créateur de spectacles nombreux. Est-ce qu'il y a une chose qui est un peu plus importante que les autres dans tous ces métiers, ou est-ce que ce sont simplement les parcours et les hasards de la vie qui vous ont conduit
Je crois que vous dites très justement, ce sont les parcours et les hasards de la vie. Parce que j'étais nul à l'école, mon père disait toujours il fait rien. Il disait à ma mère, c'est quand même dommage que tous les deux on ait fait un cancre. Je me souviens de ça.
Oui, il était assez terrible votre père.
Oui. Il était dur. Et alors je me réfugiais chez ma grand-mère, chez la maman de ma maman, qui habitait rue du Croissant et qui était chef de l'imprimerie du journal L'Humanité. Et alors, le samedi après-midi, il y avait un orchestre qui venait, un orchestre musette, et il poussait les machines d'imprimerie dans la salle des manutentions. Et alors là...
Le bal de l'Humanité.
C'était
quoi.
Le bal,
du
tous les samedis après-midi.
Du personnel.
Alors, tout le monde amenait, il y en a qui amenaient du saucisson, des sandwichs, de tout ça. Et puis moi, ma grand-mère, elle m'installait dans l'orchestre avec l'accordéoniste. Et je chantais les succès de l'époque. Alors, il y avait Le Petit Vin Blanc, il y avait tout. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai enregistré toutes les chansons à base d'accordéon.
Récemment, oui, dans votre disque Guinguette.
Oui, oui.
Mais donc, au fond, voilà, contre votre père, votre grand-mère vous a poussé
et ma mère me demandait
encouragé.
De ne pas le dire à mon père que j'allais passer le week-end chez ma grand-mère.
Voilà.
Puis c'est l'époque où les grands boulevards avaient ce qu'on appelait les petites baraques, où il y avait un bonhomme qui était assez drôle, qui s'appelait le Père la Souris, qui vendait des souris en plastique qu'on remontait avec une clé. Et il avait un vieux manteau avec des pigeons sur lui. Ouais. Oui, c'était extraordinaire. Et alors, j'allais passer ma vie à l'ABC.
Voilà.
Comme ma grand-mère travaillait dans le journal de l'Humanité, elle avait des places pour que je puisse aller voir tous les spectacles du musical, l'ABC. L'ABC qui était l'Olympia avant la lettre.
Mais autre chose, avant qu'on revienne sur toute cette histoire, Jean-Jacques Debout, qui m'a frappé en parlant avec vous, c'est que vous vous rappelez tout, vous avez connu énormément de gens, et parfois des gens qui ont eu des vies très riches comme la vôtre, finalement, on a l'impression qu'ils sont passés au milieu sans l'avoir. Vous, tout est précis, il y a une suite de personnages, de rencontres extraordinaires qui ont jalonné votre parcours, vous n'avez rien oublié. C'est quoi? C'est la curiosité des autres? Déjà très jeune, vous aimiez observer les gens, les grands artistes?
Oui. J'étais très observateur.
C'est ça.
Pour ce qui m'intéressait.
Voilà.
Et nul pour ce qui m'intéressait pas.
Voilà.
C'est pour ça que quand j'ai 15 ans, j'arrive pas à avoir mon certificat d'études. Et alors là, mon père me convoque rue des Archives dans son bureau, parce que c'était un grand opticien.
Opticien des présidents de la République.
Oui, il a été l'opticien du général de Gaulle, voilà. Ce qui était pas rien. Et il m'a dit, écoute mon petit Jean-Jacques, puisque tu n'as même pas été capable d'avoir ton certificat d'études, tu vas aller vivre dans la chambre de bonne à Saint-Mandé. Il y aura toujours à manger pour toi dans le frigo, mais tu vas quitter l'appartement et tu vas travailler, parce que c'est pas un service que je te rendrai de te laisser vivre comme ça sans travailler. Et c'est là où j'ai cherché une situation, et grâce à ma grand-mère, toujours rue du Croissant, il y avait une petite édition de musique qui s'appelait L'Abbé, et il y avait marqué « Les éditions Raoul Breton cherchent un coursier, si possible motorisé, qu'il aille se présenter, 3 rue Rossini, Paris. » Je suis allé me présenter.
Et c'est là que tout a commencé et que vous avez évidemment connu à peu près tout le monde. Alors, on va y revenir à Raoul Breton, mais je propose d'abord, Jean-Jacques Debout, qu'on remonte encore un peu plus loin dans votre histoire, dans vos premiers souvenirs musicaux, j'imagine, puisque vous êtes né en 40 et que cette chanson date de 1942.
C'était une fois, tout là-haut sur un toit, un maçon qui chantait sa romance. Ce fait n'a l'air de rien, vous allez voir combien un petit fait peut avoir d'importance. Comme il me reste à vous prouver comment, je vais commencer par le commencement. Un maçon chantait une chanson, là-haut sur le toit d'une maison. Et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là comme un oiseau sur la voix d'un autre maçon qui reprit la chanson sur le toit voisin de la maison. Et ainsi commença l'unisson de deux maçons et d'une chanson. De maçon en maçon, de pignon en pignon et de rue en ville et en village, la chanson prit son vol et dans sa course folle accrocha tous les échafaudages. Le bon vieux curé se mit à danser parce que dans le pays tout entier, mille maçons chantaient une chanson, tout là-haut sur le toit des maisons. Ça leur donnait du cœur au boulot, les matériaux tout seuls semblaient monter tout seuls et la maison poussait comme des champignons. Ça faisait la joie des compagnons qui chantaient avec tous les maçons tout là-haut sur le toit des maisons. De chantier en chantier, tous les corps de métier travaillaient et chantaient en cadence. Le soleil dans le ciel trouva tout naturel de rentrer à son tour dans la danse. C'est alors qu'il m'est venu cette idée, vous n'en ferez que ce que vous voudrez. Si tout le monde chantait comme les maçons, si chacun apportait son moellon, nous rebâtirions notre maison qui deviendrait, bon Dieu, la maison du bon Dieu. Notre chanson serait la plus belle des chansons. Et quand viendrait la belle saison, nous serions des millions de maçons à chanter sous le toit de nos maisons. Des millions de maçons à chanter sous le toit de nos maisons.
Le Grand Momo en 1942 avec la chanson du maçon, grand succès de l'époque,
énorme,
hein, Jean-Jacques Debout.
Énorme.
Et alors vous,
ça a été une révolution cette chanson.
Une révolution.
Ah, oui.
C'était le nouveau style de Chevalier avec Maurice Vander.
Oui, Maurice Vander que j'ai bien connu puisqu'il a été président des auteurs à un moment à la Société des auteurs. Mais cette chanson, si on l'écoute bien, elle annonce l'arrivée de Trenet.
Oui.
Le rythme, les jeux de mots, c'est un peu du Trenet quelque part.
Hein, ouais,
il faut bien le savoir.
Ça, par exemple, c'était sur le poste de radio, alors.
Oui, alors il y avait le général de Gaulle qui envoyait ses messages. Ma mère avait un petit poste en bakélite, Philips, je me souviens. Et alors, dans sa petite cuisine à Saint-Aignan-sur-Cher, on écoutait les nouvelles pour savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir revenir à Paris. Et puis, entre les messages du général de Gaulle, eh bien, il y avait des chanteurs qui passaient, dont Maurice Chevalier avec cette chanson du maçon qui, moi, faisait ma joie. J'adorais cette chanson que je chantais par cœur et que j'ai enregistrée par la suite.
Oui, assez récemment d'ailleurs.
Oui.
Alors ça fait partie de vos premières impressions musicales. Il y en a une autre. Alors là, c'est juste après la guerre et je voudrais qu'on la mentionne parce que le cher Fred Mella, il vient de nous quitter.
Je suis allé à ses obsèques, à Montfort-la-Maurie.
Oui, c'était les trois cloches. Hein.
Oui.
C'est la chanson que vous entendiez juste après la guerre.
Oui, Et alors, ce qu'il faut reconnaître et dire de Fred Mella, c'est qu'il avait vraiment... Il avait une voix d'ange.
Oui.
Charles Trenet disait « J'adore la voix de Fred Mella car il a une voix d'ange. » Et c'est pour lui que Trenet avait écrit « Mes jeunes années ».
Oui.
Parce qu'il était amoureux de sa voix.
Oui.
Ça existe, les chanteurs de charme. C'était, en fait, Fred Mella était un vrai chanteur de charme.
Voilà.
Mais vraiment... Et alors, j'écoutais « Village au fond de la vallée, presque ignoré ». J'écoutais ça, j'avais les larmes aux yeux. Et je me disais, c'est formidable, ces compagnons de la chanson dont on nous parle maintenant et qui nous faisaient oublier toutes les horreurs de la guerre qu'on venait de vivre.
Ouais.
Il faut reconnaître à Fred Mella qu'il a été très important dans l'histoire de la chanson.
Alors voilà, vous étiez un tout jeune gamin qui ne pensait déjà qu'à la musique et à travers la musique, mais vous n'étiez pas un très bon écolier, vous l'avez dit. Vous avez été envoyé à ce moment-là donc par vos parents dans un collège. Hein,
C'est une amie de mon père qui était professeur et qui avait dit « il faut visser votre fils ». Comme j'avais déjà 3 ans de retard dans mes études.
Trois ans de retard. Faut le faire quand même.
Oui, oui. Alors il avait dit à ma mère, ma pauvre femme, ensemble, finalement, on a fait un raté. Ma mère pleurait, évidemment. Il a dit, bon, bah, écoute, je vais le mettre en pension. Et j'ai l'adresse d'une pension où il va être vissé chez les oratoriens.
Ça se trouvait
à Près-de-Meaux. C'était le fameux collège de Juilly.
Et alors là.
Où j'ai rencontré Claude Brasseur.
Oui, et surtout, moi, ce qui m'a fasciné dans votre livre de souvenirs, vous êtes votre grand copain, c'était
oui,
Jacques Mesrine.
Jacques Mesrine, que je n'ai jamais appelé Jacques Mesrine. Quand on avait pris l'autocar pour se rendre à la pension la première fois, c'est là où j'ai rencontré.
Ouais.
Il y a un curé qui m'a dit, vous allez vous mettre là. Et puis le car démarre, et j'étais assis à côté de lui. On était en uniforme à l'époque.
Ouais,
hein, c'était...
Ouais.
D'où l'idée des boutons dorés est arrivée
un peu plus tard.
Et alors il me dit, tu t'appelles comment toi? Je lui dis, je m'appelle Jean-Jacques Debout. Il me fait, tu te fous pas de ma gueule? Non, et c'est comme si moi je m'appelais assis. Alors je lui dis, non, je te promets, je m'appelle vraiment Debout. Il me dit, bah moi je m'appelle Jacques Mérine, mais appelle-moi Jackie, c'est plus simple. Et j'ai toujours appelé
et
Jackie.
Et vous êtes devenu très copain, hein. C'est pas seulement...
Ah bah, c'était mon meilleur ami.
C'était votre meilleur
oui,
ami, voilà.
Oui,
et c'était déjà un rebelle au collège.
Oui, mais alors ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, moi j'avais 7 ans, hein, et donc on n'était pas loin quand même de la fin de la guerre. Et le général de Gaulle, encore lui, avait demandé à tous les collèges de France, quels qu'ils soient, d'accueillir des orphelins de guerre, parce que les orphelinats étaient pleins à craquer. Et là, il y avait une quarantaine d'orphelins dans le collège de Juilly. Et là, Jacques Mesrine va devenir le chef de bande des orphelins. Et il va devenir non seulement le chef de bande, mais quand il y en a un qui a des chaussures qui prennent l'eau avec la neige, avec tout ça, il demande à sa mère de lui donner de l'argent pour acheter des chaussures neuves à ces pauvres gosses qui, des fois, n'avaient plus de famille, qui venaient les voir. Et il était très gentil, vous savez.
Et vous avez même plus tard fait de la musique avec lui. Hein.
Oui, voilà. Ah bah on a formé un orchestre.
Voilà. Enfin voilà l'histoire d'un des grands, oui, grands bandits, si on peut dire, de la fin du XXe
oui,
siècle.
Oui, il jouait de la batterie, on allait au Théâtre des Champs-Élysées voir les concerts de Norman Granz à l'époque. J'ai vu les débuts d'Ella Fitzgerald à Paris au Théâtre des Champs-Élysées avec Jacques Mesrine.
Alors, on saute à nouveau quelques années, donc vous rentrez à Paris et votre grand-mère, dont vous nous avez déjà parlé, vous entraîne un jour donc à un concours de chant aux Abbesses, enfin à la place du Tertre.
C'était le concours de chant des Poulbeaux de Montmartre.
Des Poulbeaux de Montmartre.
Des petits Poulbeaux de Montmartre.
Voilà.
Et elle m'avait inscrit parce qu'elle savait que je n'aimais qu'une seule chose dans ma vie, c'était de chanter. Et alors, ce concours avait lieu au mois d'avril. Et à l'époque, j'étais fou d'une chanson que chantait Charles Trenet, qui s'appelait « En avril à Paris
voilà. ».
Quand Paris s'éveille au mois d'avril, quand le soleil revient d'exil. Et alors, j'avais chanté cette chanson-là pour le concours des petits Poulbeaux de Montmartre, où Yves Montand était venu dans le jury avec Simone Signoret, invité par Patachou, qui elle avait son cabaret,
juste
qui était
à
rue
côté.
Du Mont-Cenis, où je vais débuter quelques années plus tard, grâce à Patachou. Ouais. Et je chante et je gagne le concours.
Voilà. Et il y a là dans la foule une dame,
oui,
qui est Madame Raoul Breton,
absolument,
justement la patronne de la maison d'édition,
c'est ça,
dont on va reparler.
Que Charles Trenet avait surnommé la marquise.
La marquise. Elle était avec Trenet.
Oui.
Et ils vous ont entendu tous les deux.
Oui. Et quand on a annoncé que j'avais gagné le concours, il a fallu que je rechante la chanson, ce qui est normal quand on gagne un concours. Et quand je suis descendu de ce qu'on appelle la petite scène ou le podium, comme vous voulez. là, elle était là avec Trenet. Et elle dit, je suis Madame Breton, je suis l'éditrice de la chanson que vous venez de chanter. Et Charles Trenet me regarde et il me dit, vous savez, vous la chantez beaucoup mieux que moi, vous devriez en faire le disque. Je me souviens de ça.
Alors voici qu'aux portes de Paris accourt tout le pays par l'amour ébloui. Et du nord jusqu'au midi, la France chante et rit en avril à Paris. À Saint-Michel, la Seine oublie ses peines anciennes. Au cœur du Luxembourg, les oiseaux chantent l'amour. Sur un banc, Jeanne et Pierre sont de retour. Il fait si bon, mamie, de céder à l'envie d'un baiser que l'on prend, que l'on donne en même temps, au milieu de la fête du printemps. Voici qu'aux portes de Paris accourt tout le pays par l'amour ébloui. Et du nord jusqu'au midi, la France chante et rit en avril à Paris.
En avril à Paris, Charles Trenet, 1953, vous aviez 13 ans.
Oui.
Donc Jean-Jacques Debout, quand vous chantiez vous-même cette chanson.
Voilà. Et le hasard fait que 2 ans à peine après, je vais me présenter aux éditions.
Alors, on retrouve ce que vous avez dit tout à l'heure, cette petite annonce. Donc
avec
votre père vous a dit, tu vas te débrouiller maintenant.
Voilà.
Vous allez un jour aux éditions Raoul Breton.
Voilà.
Dirigé par ce grand éditeur de musique qui était l'éditeur de Charles Trenet. Et sa femme, la marquise, qui vous avait donc entendu lors de ce concours de chant.
Oui, parce qu'il faut vous dire aussi que Patachou avait été la secrétaire de Raoul Breton.
Avant la guerre. Hein.
Avant la guerre. Ouais, ouais. Et un jour, elle tapait le manuscrit de « Que reste-t-il de nos amours » de Charles Trenet, et il y avait une coquille. À un moment, Charles Trenet lui dit, elle s'appelait Henriette, hein, de son prénom.
Oui, oui.
Il lui dit, Henriette, vous avez fait une faute. Elle lui dit, non, j'ai pas fait de faute. Et inconsciemment, comme ça, elle se met à chanter, elle fait, mais non, j'ai pas fait de faute. Ça fait bien, « Que reste-t-il de nos amours, que reste-t-il de ces beaux jours ?» Et il lui dit, mais... Quelle belle voix vous avez, mais il faut que vous chantiez. C'est pas du tout votre place d'être là comme secrétaire.
Ah, c'est lui qui l'a poussé.
Oui,
à...
alors il a été chercher Raoul Breton et il lui a dit, Raoul, écoutez comme Henriette chante bien. Henriette, vous pouvez recommencer, vous me chantez exactement ce que vous venez de me chanter. Et là, elle chante la chanson en entier, presque en entier. Et c'est comme ça que Raoul Breton lui a fait enregistrer son premier disque.
Voilà. Alors vous, donc, vous arrivez comme coursier chez Raoul Breton, rue Rossini, près de la salle Drouot à Paris. Hein. Ça, c'est ouais. en 56. Hein.
C'est ça, 56.
Et vous êtes devenu quand même assez vite le protégé de tous ces grands artistes qui vous voient. Bon, vous êtes là pour aller livrer des petits formats, mais quand même, vous avez aimé la chanson. Et puis, vous attirez la sympathie.
Ma grand-mère m'achète parce qu'il fallait être motorisé pour pouvoir décrocher le poste. Et alors, il y avait un charbonnier rue du Croissant qui vendait un vélo Solex d'occasion. Ma grand-mère m'avait dit, si tu veux, si ça suffit pour te trouver du travail, je veux bien aller voir ce bon charbonnier que je connais et à qui j'achète du charbon du reste. Et il lui avait fait un prix pour ce vélo Solex qu'elle m'avait acheté très gentiment. Ma grand-mère que j'adorais.
Mais assez vite, Monsieur Breton, Madame Breton, étrennée, vous présente un peu à tout le monde.
Ils m'ont engagé. Ils m'ont dit, vous êtes motorisé. Voilà, c'est ce qui les intéresse. Oui, j'ai un vélo Solex. Alors, on vous engage. Et j'allais donc le matin à 8h30 dans le bureau de Monsieur Breton, que Charles Trenet avait baptisé le Marquis, puisque sa femme, il l'avait baptisé la Marquise. Et alors, il me disait, il faut aller, par exemple, chez Paul Becher, livrer tant de petits formats de la mer. Il avait aussi, à l'époque, il était en plein succès aussi avec Edith Piaf. C'est lui qui avait emmené Piaf aux États-Unis chanter au Versailles à New York, avec les compagnons, justement. Et enfin, il m'envoyait partout où on réclamait des petits formats bretons. On appelait ça les petits formats bretons, qui étaient bleu ciel, et comme les murs de leur édition. Et j'allais les livrer avec mon petit vélo Solex, et j'ai commencé comme ça. Et alors, au lieu d'être à Saint-Mandé à l'école communale, où j'aurais eu déjà 4 ans de retard dans les études si j'étais resté, je me suis retrouvé avec des professeurs que j'aurais jamais eu dans une école, qui étaient Mireille, le mari de Mireille, l'écrivain
Berle,
Emmanuel Berle. Et puis, Charles Trenet m'avait présenté à Jean Cocteau au Grand Véfour le soir de ses 40 ans, où il voulait pas aller. Il avait 40 ans, il voulait se suicider. Et il avait dit à Madame Breton, elle dit, tous vos amis vous attendent, vous êtes fous. Il dit, non, je vais aller manger une pizza avec ce jeune garçon qui est là, votre coursier. Alors, Madame Breton s'énerve et elle lui dit, Charles, vous n'allez pas commencer à débaucher mon personnel. Il lui dit, c'est pas du personnel. Regardez, on dirait un ange qui est tombé du ciel, dont je pourrais être le père et vous la mère. Voilà, ça a commencé comme ça. Elle a dit, si vous insistez, alors emmenons-le au Grand Véfour. Et là, il y avait Jean Cocteau, il y avait Colette, il y avait Charlie Chaplin.
C'est pas mal pour commencer. Et donc, peu à peu, vous entrez dans ce monde comme un petit jeune qui a surtout envie de chanter. Et vous entrez notamment avec d'autres au Petit Conservatoire de Mireille. On va vous y retrouver tout de suite. Là, c'était 2 ans plus tard, en 1958.
Bonsoir les enfants.
Bonsoir Mireille.
Monsieur Jean-Jacques Debout, je vais vous demander de m'aider.
Très bien. Ouais.
J'espère que vous saurez expliquer aux auditeurs ce que savent faire vos camarades.
Hein?
Et quel âge avez-vous, monsieur Debout ?
18 ans.
Je voudrais que les auditeurs entendent un petit bout de votre voix aussi, voulez-vous ? Oui. Montrez-moi un peu de la chanson de Charles Trenet, peut-être ?
Oui, les coupeurs de bois ?
Oui.
Trois hommes du Nord, très grands et forts, viennent d'arriver. Quartier Saint-Gervais, ils viennent pour couper du bois, car ce sont des coupeurs de bois, ils aiment bien couper du bois, ça fait des bras. Ils vont partir, forêt du Tir, où leur patron, qui est fort comme un tronc, les paye pour couper du bois, de l'oseille pour couper du bois, surveille ces coupeurs de bois, c'est bien son droit.
Merci.
Voilà, vous aviez une voix très différente de celle qu'on a connue.
Très haut perché, comme ça. Ouais. On avait l'impression que je chantais avec une pince à linge qui me coinçait le nez un peu.
Enfin voilà, vous êtes chez Mireille en 58, mais vous êtes déjà un des favoris de la classe, parce qu'elle vous demande de l'aider pour faire des choses, pour accueillir les autres.
Il y avait Risset Barrier, qui a été son premier élève.
Ah oui.
Joël Holmès, le deuxième élève. Il y avait moi, j'étais le troisième élève. Et puis, il y avait Frida Bocara aussi, qui est arrivée, qui était la quatrième et cinquième élève. Et puis après, le cours s'est étoffé. Beaucoup de jeunes sont venus s'inscrire. Et puis, un jour est arrivé Françoise Hardy. Et là, ça a été un grand choc pour toute l'école et tout le cours. Tellement elle était belle et tellement sa voix était prenante et magnifique.
Alors Jean-Jacques Debout, après ses débuts chez Raoul Breton, puis chez Mireille, comment est-ce que vous avez écrit, composé, chanté, enregistré votre vrai premier succès, les Boutons Dorés ?
Comme ça faisait pas très longtemps que j'avais quitté le collège de Juilly, où j'avais été marqué évidemment par tous ces orphelins qui étaient là, dont Jackie et Mérine s'occupaient, et j'avais rencontré Maurice Vidalin,
qui était un auteur de chansons célèbre à ce moment-là.
Qui écrivait pour Gilbert Bécaud.
Voilà.
Alors je rencontre Maurice Vidalin et je lui dis « Maurice, j'ai envie de chanter. Patachou, gentiment, m'a proposé de passer en levée de torchon, ça s'appelait. »
C'est-à-dire levée de torchon.
Oui, non. C'était deux chansons qu'on chantait au début du programme.
Ah oui.
Ça s'appelait
avant l'anglaise et l'américaine.
Ah oui. C'était le premier grade d'un spectacle de music hall ou de cabaret.
Oui.
Alors j'avais vu Maurice Vidalin et je lui avais raconté toute l'histoire des orphelins, de toute cette histoire-là. Et c'est comme ça qu'il m'a fait les paroles des Boutons Dorés.
Voilà, donc c'était une évocation de votre enfance au pensionnat.
Absolument.
En fait, hein, de ces orphelins.
Moi j'ai collaboré pour la musique et voilà pas que Raoul Breton entend la chanson. Parce que lui, il n'était pas au courant, Raoul Breton, qu'il se passait ça dans son édition. Et puis un soir, il est venu pour mes débuts chez Patachou, m'écouter, et il me dit « Je vais te faire enregistrer cette chanson le plus vite possible. » Et il y avait la grève des musiciens. Une grève qui avait duré plus de 4 mois.
Ah oui.
Et il m'avait pris comme orchestrateur l'orchestrateur de Charles Aznavour, qui s'appelait Jean Lexia.
Grand arrangeur, orchestrateur,
formidable,
chef d'orchestre.
Qui avait fait tous les arrangements à l'Alhambra pour Charles quand il avait eu ce succès avec « Je ne peux plus rentrer chez moi »,« Je me voyais déjà », tout ça c'était Jean Lexia.
Vous avez fait la chanson avec Jean Lexia ?
Oui, enfin il m'a fait l'orchestration et on a été l'enregistrer dans les studios Kluger à Bruxelles.
Voilà.
On est parti avec la voiture de M. Breton, sa Chevrolet. Tous les ans, il allait à New York s'acheter une Chevrolet qu'il ramenait par bateau.
Pas mal.
Ah bah oui, c'était son plaisir. Et oui, parce que comme c'était un éditeur français qui avait réussi en grand aux États-Unis, grâce à la mère de Charles Trenet.
Et le disque a très bien marché.
Et le disque s'est retrouvé dans les numéros 1. J'ai été en même temps numéro 1, en même temps que Gainsbourg, qui lui chantait le poinçonneur des Lilas. Et on a démarré tous les deux en même temps au cabaret... Le Collegien à Montparnasse, le même soir, engagé par Cora Vauquer.
Sauf que vous étiez encore un gamin, vous.
Oui, mais je m'entendais bien avec lui aussi.
On suit le mur de l'hôpital, on passe le pont sur la rivière. On tourne au coin du cimetière pour suivre un peu le vieux canal. Puis vers 5 heures, on rentrera, suivant d'autres murs, d'autres grilles. À part ceux de l'école des filles, jusqu'au mur de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. C'est pas souvent que j'ai gagné la médaille de la bonne conduite. Je peux pas manger la soupe gratuite, j'aimerais mieux dormir dans les prés. J'aurais pas mon certificat, paraît que je suis de la mauvaise graine, parce qu'un jour j'écris je t'aime sur les murs de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. La nuit, je m'invente un vrai roman que j'ai toujours mon père, ma mère, une vraie maman en robe claire et un papa qui a plein d'argent. Ah, si jamais ils entendent ça, je les en supplie qu'ils viennent tout de suite avant que mes ongles s'effritent sur les murs de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. Oh, je suis pas bien gros, je suis pas malin, j'ai peur de jamais être un homme, de rester toujours le pauvre môme à qui personne tiendra la main. Mais malgré qu'on soit bon pour moi, un jour ça pètera dans ma tête, et pour peu que j'ai des allumettes, je mettrai le feu à l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, en casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés.
Les boutons dorés, Jean-Jacques Debout à ses tout débuts, donc en 1958, une chanson donc qui vous rend célèbre du jour au lendemain.
Oui.
Votre père a été content d'ailleurs de voir que finalement vous n'étiez pas
oui,
tout à m'avait... fait un cancre. Hein.
Oui, oui, mais il m'avait dit, tu sais, t'as un peu de succès, mais ça risque de pas durer longtemps. Tu me retireras jamais de la tête que tu aurais dû me succéder dans l'optique, et que tu aurais dû faire l'école d'optique à Moret, ça aurait été beaucoup plus intéressant.
Alors cette chanson, elle va lancer donc votre carrière, mais elle va aussi vous ouvrir des quantités de portes, de rencontres. Et alors il y en a une que j'aimerais qu'on raconte parce que elle est quand même merveilleuse. C'est celle de Marlène Dietrich qui va vous demander de faire sa première partie à l'Olympia.
À l'Olympia.
Mais voilà, racontez-nous cette rencontre de Marlène.
Marlène était arrivée à Paris un mois avant de chanter à l'Olympia. Et Bruno Coquatrix avait été la chercher à son arrivée, à l'époque c'était Orly.
À Orly, hein. Ouais.
Elle arrivait de Los Angeles et il la loge à l'hôtel Lancaster rue de Berry où elle avait une suite. Et elle était arrivée avec sa secrétaire qui s'appelait Marty Stevens. Et Marlène dit à cette fameuse Marty, elle lui dit « Appelle le concierge qui branche la télévision, je voudrais savoir ce qui se passe ». En France,
en France,
parce que
en ce moment.
Je sais ce qui se passe en Amérique, mais je sais plus du tout ce qui se passe en France en ce moment. Alors, elles appellent donc le concierge qui monte, qui branche la télé. Et au moment où il branche la télévision, c'était encore en noir et blanc. Hein,
ouais.
Et tout d'un coup, elle tombe sur moi, qui était en train de chanter Les Boutons Dorés, présenté par Jacqueline Joubert, dans une émission qui s'appelait Le Magazine de la Chanson Française. Et dans cette même émission, Jacqueline Joubert avait demandé à Juliette Gréco, qui chantait la javanaise, de présenter Serge Gainsbourg, qui lui allait chanter le poinçonneur des lilas. C'est-à-dire qu'on retombait toujours sur les mêmes.
Et mais vous avez plu à Marlène.
Et alors,
le petit jeune chanteur là, dans ses boutons dorés.
Alors, c'est Marty Stevens, sa secrétaire, m'a dit, elle m'a demandé de me taire, elle a écouté la chanson, et puis elle m'a dit, regarde, on dirait Gabin quand il était jeune. Oh, cette chanson aurait été formidable pour Gabin quand il chantait, quand il était jeune. Mais pourquoi je le mettrais pas à l'Olympia dans ma première partie?
Voilà.
Appelons Bruno Coquatrix. Les voilà qui font le numéro de l'Olympia. Ils tombent sur la femme de Bruno Coquatrix, Paulette Coquatrix, qui dit « Mais Bruno est avec Gilbert Bécaud dans un restaurant qui s'appelle la Barrière Poquelin, qui se trouve au Palais Royal ». Parce que Gilbert, quand il va faire l'Olympia, il veut toujours que l'ordre de son tour de chant soit fait par Bruno.
Ah.
C'est une tradition. Et Marlène arrive à joindre le restaurant. Et tout d'un coup, le restaurant dit « Oui, oui, bah, j'ai Monsieur Coquatrix et Monsieur Bécaud sont en train de travailler sur une table tout en dînant, si vous voulez, mais ne quittez pas, je peux même leur amener le téléphone sur la table ». Et le téléphone arrive et le patron du restaurant dit à Bruno Coquatrix, c'est Marlène Dietrich au téléphone. Et Bruno Coquatrix a eu très peur. Il s'est dit, elle est peut-être tombée, il lui est peut-être arrivé un accident. Vite, il l'a prise au téléphone. Il lui a dit, Marlène, qu'est-ce que je peux pour vous? Et elle lui dit, écoutez, je viens de voir un garçon à la télévision qui chante une histoire d'orphelin. Qui est ce garçon? J'aimerais tellement l'avoir dans ma première partie à l'Olympia. Savez-vous qui c'est? Est-ce que vous savez qui c'est? Il dit oui, je l'ai vu il y a 3 jours chez Patachou, il s'appelle Jean-Jacques Debout.
Voilà, et quelques jours plus tard, vous débarquiez à l'hôtel Lancaster.
Où elle m'avait donné rendez-vous à 5h.
Reçue par Marlène.
Absolument.
Dans une tenue extravagante.
Tout enfin... en jean. Elle avait son blouson en jean avec sa Légion d'honneur rouge sur le jean bleu. Avec ses lunettes bleues.
En 58,
ses lunettes avec les verres bleu ciel qui étaient renversés sur sa belle chevelure blonde. Elle était magnifique.
Voilà.
Et elle m'a dit, alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un drink? Vous voulez quelque chose? Et à l'époque, on buvait du GB Coca. Hein.
Voilà.
C'était un JB Coca et elle, elle avait ouvert une bouteille de champagne. Et elle m'a dit, voulez-vous faire l'Olympia? Et du reste, j'ai ici dans la pièce à côté, j'entendais quelqu'un qui jouait du piano. Il y a mon chef d'orchestre, Burt Bacharach, ce qui n'est pas rien quand même, qui va vous faire les orchestrations parce que je voudrais que vos chansons aillent un peu avec mon spectacle, soient un peu dans la même ambiance. Et c'est comme ça que j'ai chanté 6 chansons en première partie à l'Olympia, réorchestrées par Burt Bacharach.
Voilà, et là c'était une nouvelle consécration parce que tout Paris, évidemment, vous avez
et elle m'a emmené en tournée aux États-Unis, voilà. Partout dans le monde entier.
Elle vous a emmené aussi chez Maurice Chevalier,
absolument.
Et chez beaucoup d'autres.
Et puis à Berlin, quand elle a fait sa rentrée à Berlin, elle n'était plus revenue à Berlin depuis la guerre. Et à l'époque, tout le monde avait peur qu'il y ait un attentat contre elle.
Alors ça, c'est donc la vraie consécration d'un jeune chanteur qui va néanmoins avoir encore un autre grand succès dans un autre grand concours. C'est en 1964, ça s'appelait
La Rose d'or de la chanson française.
De la chanson française, oui. À Antibes.
Organisée par Claude Tabet.
Et là, vous avez obtenu le prix avec cette chanson qu'on va écouter avant d'en redire un mot. Je la trouve très jolie et avec d'excellents arrangements de Jean Bouchetti.
Ah oui.
Nos doigts se sont croisés pour la première fois lorsque tu as dansé près de moi, près de moi. Quand ils t'ont rencontré, ce que je n'osais dire, d'autres te le diront. Et quand tu vas les croire, c'est eux qui partiront. Nos doigts se sont croisés pour la première fois. Lorsque tu as dansé près de moi, près de moi. Nos yeux se sont aimés pour la
Jean-Jacques Debout en 1964 à la Rose d'Or d'Antibes. Alors il y avait l'orchestre de l'ORTF,
c'était l'orchestre de l'ORTF
avec Raymond Lefebvre,
dirigé par Raymond Lefebvre, qui jouait de la Pinette de Jean Lépin, là où il y a tous les concerts de jazz l'été.
Ouais, ouais.
Et pendant 3 jours, toute la France écoutait. C'était retransmis sur France Inter.
C'était un grand concours. Hein. Après celui de Deauville les années d'avant,
voilà.
C'était devenu le grand concours de la chanson.
C'est ce qui a remplacé effectivement le concours de Deauville. Et je ne croyais pas du tout que j'allais gagner, hein, pas du tout. Puisque moi, j'avais même prévu de donner ma chanson à Dario Moreno, qui était aussi dans le concours.
Oui, qu'il l'aimait beaucoup.
Il l'aimait, il disait, moi, si je chante cette chanson, je vais gagner le concours. Ben, je lui dis, Dario, si tu veux, je te la donne. Et comme Chantal venait de me rejoindre...
Voilà, parce que c'est aussi le début de vos amours avec une toute jeune fille qui s'appelle Chantal Goya, que vous avez rencontrée peu avant, on y reviendra. Mais elle était là, à la Rose d'Or aussi.
Et trois jours avant de partir à la Rose d'Or, j'avais été à la salle Pleyel pour un instrument de musique et je rencontre par hasard Madame Legrand, la maman de Michel Legrand. Ouais. Marcel Legrand, elle s'appelait.
La sœur de Jacques Elian.
Oui, absolument. Et je présente donc cette petite jeune fille à Madame Legrand. Et Madame Legrand me dit, bah écoutez Jean-Jacques, je vous verrai la semaine prochaine à la Rose d'Or parce que je descends, j'y vais, je vais y aller. Et la petite jeune fille entend ça. Et elle m'a fait la surprise de descendre en voiture avec Madame Legrand. Et au moment où elle est arrivée, j'étais en train de répéter avec Raymond Lefebvre. Nos doigts se sont croisés. Et j'étais tellement tombé amoureux d'elle. Je l'aimais tellement que moi, je voulais donner ma chanson à Dario Moreno pour partir à Saint-Tropez avec elle.
Et c'est Chantal.
Et c'est Chantal qui a dit non, tu vas concourir avec cette chanson. Et il n'est pas question d'aller à Saint-Tropez. Et j'ai gagné le concours, je crois, aussi par amour pour elle.
Parce que vous êtes un homme, c'est pas tout à fait le mot impulsif, mais vous agissez par instant, par passion, par décision comme ça soudaine, que ce soit pour des rencontres, pour tomber amoureux, pour partir, pour acheter une maison. C'est comme ça.
J'ai fait des conneries aussi. Des fois, ça m'a coûté cher.
Vous étiez prêt à partir au lieu de passer le concours.
Complètement.
Jean-Jacques Debout, on a beaucoup évoqué, depuis que vous êtes là, finalement, tout à l'heure, un nom qui revient souvent dans la chanson de cette époque-là. Et moi, ça me fait plaisir parce que aujourd'hui, on le snobe un petit peu, Gilbert Bécaud. C'était un très grand artiste.
Énorme.
Vous l'admiriez,
oui, beaucoup.
Vous.
On ne pouvait que l'admirer, d'une part, parce que c'était un très grand musicien.
Ouais.
Il a écrit des mélodies magnifiques.
Ouais.
C'était un innovateur.
Ouais.
Quand, par exemple, les Platters ont été à la mode en France, il a écrit « Le jour où la pluie viendra ». Il a même écrit des chansons chantées par les Platters.
Ouais.
C'est quand même un des rares compositeurs artistes français qui a été joué comme ça aux États-Unis avec « Et maintenant », vous le savez.
Ouais, bien sûr, ouais.
C'est en septembre. « Le jour où la pluie viendra », ça a été son premier grand succès. « Let it be me » aussi. Je trouve que c'est un peu injuste, l'histoire de Bécaud.
Oui, moi aussi.
Parce que c'était un très grand interprète.
Et l'homme ?
Et l'homme était adorable. Ouais. Il était un peu fou. Voilà, il était un peu...
Excessif.
Excessif.
Voilà.
Il était excessif. Il me rappelait un peu l'excessivité de Jacques Brel.
Ouais.
Ils étaient un peu pareils, tous les deux. Ouais. Ou ils étaient complètement démoralisés. Alors là, ils disaient plus un mot. Ou alors, c'était, on pouvait plus les arrêter. Mais j'aimais beaucoup Gilbert Bécaud. Il n'y a pas que moi qui l'ai aimé. Le monde entier reconnaît que Bécaud est quand même un immense talent.
Et puisque d'autres mains sur ton corps impudique sont venus prendre place, où mes doigts ont couru, et puisqu'un autre cœur donne au tien la réplique, et que tes joies se fondent aux joies d'un inconnu, je veux te dire adieu. Puisque tes reins se courbent aux nouvelles étreintes et que ta peau frémit sous un souffle nouveau, puisqu'un autre que moi peut arracher tes plaintes faisant jaillir de toi des râles et des mots. Mais puisque sur sa couche tu nies mon existence en oubliant mon nom pour mieux crier le sien et que tu mords dans sa vie pour tisser ma souffrance en lui disant des mots que je croyais les miens blessés dans mon cœur même. Et parce que je t'aime, je veux te dire adieu.
Ah, vous l'aimez, vous avez bien raison, cette chanson.
Hein, j'adore cette chanson.
Elle est très, très belle.
Hein. Et là, vous voyez, en la réécoutant, eh bien, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais je me dis, ben, tu t'étais pas trompé en aimant cette chanson.
C'est une chanson de 1955, écrite par Aznavour pour Becco.
Hein. Oui, voilà. Et c'est la première fois qu'Aznavour faisait des paroles pour Becco.
Je veux te dire adieu.
Ouais.
Et c'est ça que j'aime chez vous, je le disais, Jean-Jacques Debout, entre autres, c'est que vous avez eu la curiosité de tous ces artistes qui étaient vos aînés, vous les avez observés, admirés.
Ah oui, je les observais, puis je les aimais.
Vous les aimiez,
ah bah oui, ouais. Puis je travaillais pour eux. Alors, par exemple, Gilbert, il n'avait pas le temps d'aller chercher son nouveau costume de scène qui se faisait faire chez un tailleur qui s'appelait Monsieur Bardot. Alors, il m'envoyait voir Monsieur Bardot au rue du Faubourg Saint-Honoré. Et alors, je venais comme ça avec mon Solex. Puis je disais, mais vous croyez que je vais pouvoir transporter ce costume? Il disait, oui, je vais vous faire un beau paquet, vous allez voir. Puis alors, il lui mettait un mot, cher Gilbert, j'espère que ce costume vous ira bien.
Une autre artiste, alors encore plus oubliée que Gilbert Becco, et qui pourtant a été une gloire mondiale, que vous avez bien connue. On en dit juste un mot parce que c'est l'occasion, Jacqueline François.
Ah, je l'adorais.
Ouais.
Et puis, non seulement j'adorais, mais finalement... On peut le dire. J'étais même secrètement très amoureux de sa voix. Ouais. Et j'étais un peu amoureux d'elle. Oui, je me disais, si c'était possible, j'aimerais bien faire ma vie avec une belle artiste comme Jacqueline François, que les gens déjà à l'époque appelaient Mademoiselle de Paris.
Mademoiselle de Paris, elle était connue dans le monde entier.
Le monde entier.
Et elle avait elle-même, c'était pas vous malheureusement, un amoureux
voilà.
Un peu secret, il faut le dire. Quand il venait à Paris, il l'a retrouvé. C'était
C'était Louis Armstrong.
Et oui, c'est quand même extraordinaire.
Et c'était Armstrong. Et un jour, elle m'avait fait engager... à la Villa d'Est, qui était un cabaret assez important près de l'Étoile. Et elle me dit, ce soir, il y a Louis qui vient. Alors, je lui dis, Louis. Elle me
Mariano.
Dit, quoi, Louis? Oui, peut-être Louis Mariano. Elle me dit, mais non, Louis Armstrong. Alors, je lui dis, c'est pas vrai. Parce que moi, c'était moi qui adorais le jazz. C'était mon idole, Armstrong.
Ben oui.
Pendant mon tour de chant, donc c'est moi qui commençais le spectacle à la Villa d'Est, tout d'un coup, j'entends la porte du cabaret qui s'ouvre avec un type qui riait, mais à gorge déployée, qui faisait « Ah, à boire !» Il criait à boire, ou je ne sais pas ce qu'il criait. Et le patron, qui s'appelait Paoli, qui était un Corse, qui était un dur, quoi, mais un vrai dur, qui tenait sa boîte de nuit comme un dur, comme un vrai Corse, il savait que Armstrong n'aimait que boire du cognac. Il l'avait assis à une table et il lui avait mis une grande bouteille de cognac qu'Armstrong buvait au goulot comme ça en écoutant chanter Jacqueline François.
C'est merveilleux.
Et moi, j'avais l'impression qu'il jouait de la trompette en même temps, qu'il confondait sa trompette avec la bouteille de cognac.
Donc, on connaît mieux Juliette Gréco et Miles Davis que Jacqueline François et Louis Armstrong. Et pourtant, c'était aussi une belle histoire franco-américaine.
Ben, absolument.
Jean-Jacques Debout, néanmoins, alors vous étiez fasciné à juste titre par tous ces grands artistes de la génération précédente. Et pourtant, comme tous ceux de votre génération, vous étiez aussi un yéyé.
Quand je viens te raccompagner, je n'ai pas du tout envie de rentrer. Descendant les Champs-Élysées, tenant bien mon volant serré, là je n'ai pas peur de griller les feux rouges qui veulent m'arrêter. File envers Saint-Germain-des-Prés, j'accélère en évitant de freiner. C'est alors que je m'aperçois que l'ennui revient près de moi. Là je n'ai pas peur de griller les feux rouges qui veulent m'arrêter. Prenant tous les sens interdits, je me fous pas mal de ce que l'on dit, que tu ne pourrais pas m'aimer. Les agents peuvent bien me siffler, là je n'ai pas peur de griller les feux rouges qui veulent m'arrêter. Voilà comment je passe mes nuits, la vitesse est devenue mon amie, attendant de te retrouver, dans le vide je crois me noyer. Là je n'ai pas peur de griller les feux rouges qui veulent m'arrêter. 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 Les feux rouges qui veulent m'arrêter.
Un aspect moins connu de Jean-Jacques Debout, Les Feux Rouges, 1963. Vraiment chanson yéyé, mais en fait, vous n'étiez pas vraiment un yéyé militant dans l'opposition des générations. C'était... On se tourne vers l'Amérique. Vous, vous aimiez autant la chanson française.
C'est parce que je venais d'écrire pour Johnny, Pour moi la vie va commencer.
On va évoquer tout de suite.
Qui a été la chanson de son film. Et Johnny me disait, mais tu peux pas m'écrire du rock aussi. Essaye de m'écrire un rock. Et je lui avais écrit cette chanson qu'il a enregistrée avec un arrangeur qui était très connu à Londres, qui s'appelait Red Getz, je me souviens.
Mais et vous l'avez enregistrée aussi.
Moi, je l'ai enregistrée aussi et Johnny aussi.
Voilà. Mais donc oui.
Mais on sent l'influence quand même. Hein,
Oui. Mais vous n'étiez pas dans cette opposition qui était celle de certains yéyés.
Non, genre, ça m'amusait.
Contre la génération d'avant.
Bon, je vais être très franc avec vous. Hein, c'était pas la musique qui coulait le plus dans mes veines.
Voilà.
Mais j'avais rien contre. J'adorais Ray Charles, j'adorais Chuck Berry, j'adorais tous ces artistes-là que j'ai eu la chance de connaître et de côtoyer.
Et alors, donc, dans votre histoire étonnante quand même, Jean-Jacques Debout, il se trouve que vous avez rencontré énormément de très grands artistes, parfois à leur début, et c'est le cas pour Johnny que vous avez rencontré pour la première fois alors qu'il était complètement inconnu. Hein.
Oui, je sortais de chez Patachou, je venais de chanter, et puis je vois un garçon qui vient vers moi et il me dit « Vous n'êtes pas Jean-Jacques Debout ?» Je lui dis « Si, oh, j'aime tellement vous entendre chanter votre chanson là sur les orphelins, vous savez, moi, mon père, je ne l'ai pas connu, il a quitté ma mère, enfin il me raconte un peu l'histoire de son père. » Et puis, je lui dis, vous n'avez pas faim? Parce que moi, je mangeais jamais avant de chanter. Je lui dis, si vous voulez, on peut descendre Place Pigalle. Je connais une brasserie qui s'appelait Les Pierrots de Montmartre. Il me dit, mais je la connais parce que je vais attendre ma cousine souvent, qui fait un numéro de playmat avec mon cousin. C'était pas son cousin, c'était le fameux Lee Hallyday, va après lui donner son nom. Mais à l'époque où je vous parle, il s'appelait encore Jean-Philippe Smet. Ouais. Il avait 15 ans à peine, hein. Et alors le patron le connaissait très bien, on arrive et le patron lui dit « Ah bah vous tombez bien parce qu'il y a des gens qui ont envie de vous voir ». Et alors il y avait un jukebox et dans le jukebox il y avait « Rock on the Clock » par Bill Haley. Il y avait une petite guitare qui était posée là, dont il savait très bien se servir. Et il accompagnait Bill Haley à côté du jukebox en chantant plus fort que Bill Haley. Et tous les gens de la brasserie le regardaient, ils l'applaudissaient et ils mettaient de l'argent dans le jukebox pour qu'il recommence à chanter. Et c'est comme ça qu'un soir, j'ai amené Jacques Volson des disques Vogue pour voir le phénomène que c'était. Et c'est comme ça qu'il l'a engagé pour faire son premier disque.
Voilà. Et alors, bon, on va pas raconter toute l'histoire, mais vous êtes devenu très proche du jeune Johnny, qui était un ami, un vrai ami.
Et que j'adorais.
Et il faut quand même que vous nous racontiez, avant qu'on l'écoute, cette histoire amusante de la rencontre avec Ray Ventura et Abel Gance, qui va déboucher sur la chanson « Pour moi, la vie va commencer ».
Alors, Johnny me dit, tu restes avec moi, parce que à l'époque... À toutes les fins de ses concerts, c'était de la folie parce que tout le monde, les filles lui arrachaient sa veste, tout ça. Enfin bon.
Voilà, en 62, 63.
Oui. C'est ses vrais grands débuts. Hein. Ouais. Alors il partait dans le panier à salade et là, le panier à salade avait ordre de nous emmener à Castelnaudary, à l'Hôtel de France, où l'attendait Ray Ventura.
Qui était producteur de films à ce moment-là.
Oui,
hein, voilà.
Il venait de produire Le Repos du Guerrier, qui avait très bien marché avec Robert Hossein et Brigitte Bardot. Et il avait décidé de faire un long métrage avec Johnny.
Voilà.
Et au début, il avait pensé que le metteur en scène pourrait être Abel Gance.
Étrange idée d'ailleurs.
Étrange idée, oui. Et alors, nous voilà attablés avec des cassoulets au foie gras et tout ce qu'il fallait à Castelnaudary. Et Ray Ventura arrive avec Abel Gance, qui ressemblait un peu physiquement à Léo Ferré en plus grand, avec des grands cheveux blancs comme ça. Il avait l'air de sortir d'une autre époque. Ouais. On aurait même pu croire qu'il avait 300 ans. Dans certains films de science-fiction, on aurait pu le croire. Et Johnny me pince comme ça le bras. Il me dit, qui c'est ce vieux-là? Alors, je lui dis, attends, je lui dis, tu te rends pas compte, c'est Abel Gance. Il me dit, mais Abel Gance, qu'est-ce qu'il a fait, Abel Gance? Je lui dis, il a fait Napoléon. Le Napoléon d'Abel Gance, c'est le film culte des Américains. Si t'arrives à New York un dimanche matin, tu mets la télé, tu tombes sur Abel Gance avec Napoléon. Et là, il me regarde, il me fait, tu crois qu'il l'a connu?
Là, Johnny, un peu naïf, et, Napoléon, là.
Et alors là, Ray Ventura dit, Johnny, tu tournes dans 15 jours, il faut un grand succès pour le film. Et alors Johnny, très gentiment, dit, pourquoi on ne demande pas à Jean-Jacques? Parce que Ventura dit, moi je repars à Paris demain matin par le train de Toulouse, et il faut la chanson pour la faire orchestrer. Puisque tu commences, tu chantes pour la première fois dans le film, en Camargue, quand tu es dans les étangs de Vacarès, avec tous les taureaux qui courent autour du cheval, c'est là où il commence à chanter « Pour moi, la vie va commencer ». Et alors, il dit « Pourquoi on ne demanderait pas à Jean-Jacques ?» Et moi, je dis « Mais je veux bien ». J'étais même assez flatté. J'étais très content. Et alors, je lui dis « Mais il faudrait un piano, quelque chose ». Alors, il y avait un piano dans le hall de l'hôtel. Et alors, je demande à la patronne de l'hôtel si je peux m'en servir. Elle me dit « Mais non, c'est le salon du cuir. Vous allez me faire fuir tous mes clients dans l'hôtel. Ils vont tous partir. Ça va être épouvantable. » Je dis « Johnny, si tu vas chercher dans ta chambre les serviettes, ta sortie de bain, tout ça, on va mettre tout ça dans le piano. Je vous promets, madame, qu'on n'entendra rien. Il n'y a que moi et Monsieur Ventura et Johnny qui entendront un petit peu la musique, mais vos clients n'entendront pas. Johnny est parti chercher la sortie de bain. Il est parti chercher tout. Il y avait même le gant de toilette avec. Tout est rentré dans le piano et tout s'est bien passé. J'ai commencé à faire tatin, 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 tatin. Pour moi, la vie va commencer. Et Ray Ventura marquait.
Notait la musique.
Il notait avec son stylo. Et c'est devenu Pour moi, la vie va commencer. Et où il a vendu plus de 3 millions d'albums.
Pour moi, la vie va commencer. En revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer, et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. Je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris, tandis qu'au loin comme un troupeau passent les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer, et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, mes années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. pour moi la vie va commencer.
Johnny Hallyday en 1963 dans cette chanson de Jean-Jacques Debout qui est mon invité. Et oui. Il vous manque, hein?
Oui, beaucoup.
Oui.
Je trouve que la France sans Johnny, c'est plus tout à fait la France.
Voilà, et en tout cas, bah, vous avez été de grands complices. Mais alors, il faut dire que on a déjà évoqué aussi tout à l'heure votre rencontre avec Chantal Goya, c'est maintenant avec Johnny Hallyday, mais c'est que avant Johnny Hallyday et Chantal Goya, il y a eu une autre rencontre importante, Béguin, on peut le dire, ça a été Sylvie Vartan.
Ah bah oui, mais elle m'a inspiré beaucoup.
Oui. Et alors elle avait, elle, vraiment fait ses débuts déjà, elle était déjà vedette, hein, vous l'aviez repéré.
Oui, elle chantait Panne d'essence, voilà, avec Francky Jordan.
Oui, c'est ça.
Et puis Daniel Philippaki, que je rencontrais à la Belle Ferronnière, au moment où il a lancé le journal « Salut les copains », un jour me dit, tu sais, je m'occupe d'une jeune chanteuse, est-ce que tu connais Sylvie Vartan? Je lui dis, oui, je l'ai entendue à ton émission, mais je la connaissais pas personnellement. Il me dit, elle arrive dans quelques secondes, pourquoi tu ne l'attends pas? Je vais te la présenter, essaye de lui écrire une chanson, parce qu'on prépare un album et il nous manque une chanson. Tu serais très bien pour lui écrire une chanson. Et c'est là où je lui ai écrit « Tous mes copains, quand je les vois passer ».
Que Johnny aurait bien aimé chanter aussi,
oui,
d'ailleurs.
Oui, un jour... C'est drôle parce que on était parti de Bordeaux jusqu'à Marseille et dans la voiture, il me dit, tu te rends pas compte? Tu m'aurais donné tous mes copains que t'as été donné à Sylvie Vartan, là. Eh ben, j'en aurais vendu beaucoup plus qu'elle, il me dit.
Et alors, vous êtes tombé raide dingue de Sylvie Vartan.
Oui, vraiment.
Vous étiez amoureux d'elle, mais elle n'était peut-être pas tout à fait autant
non.
de vous. Hein.
Non, non.
Il y a une scène dans un cinéma où vous l'emmenez un jour.
Oui, un cinéma d'arrêt d'essai,
ouais.
qui était le Studio Bertrand,
ouais.
à Montparnasse.
Ouais.
Et alors, j'avais emmené voir Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet.
C'est long.
C'est long. C'est, bah, oui.
C'est beau.
Il dure 4 heures, le film. Et puis à un moment... Moi, j'attendais le moment de pouvoir l'embrasser parce que ça faisait longtemps que j'en avais envie. Et à un moment, elle se met en arrière comme ça et elle ouvre la bouche et je vais pour l'embrasser et elle me mord la langue. Parce que, en fait, elle avait pas du tout envie de m'embrasser. Elle commençait à s'endormir. Parce que ça faisait déjà 3h30 que le film se jouait et en fait, elle s'endormait et en s'endormant, elle a ouvert la bouche. Mais moi, j'ai cru que c'était pour m'embrasser.
N'empêche que voilà, il était clair qu'elle n'était pas amoureuse de vous, mais quand
non.
elle s'est rapprochée de Johnny, vous l'avez très mal vécu et vous vous êtes un peu fâché pendant un certain temps avec vos deux amis qui étaient ensemble. Hein.
Bah oui.
Vous étiez malheureux.
Bah oui, oui. Et je lui avais écrit une chanson qui s'appelait « Deux amis pour un amour
ouais. »,
qu'il a magnifiquement bien chantée, qui vient d'être mixée du reste et qui va être réorchestrée aussi par Yvan Cassar.
Voilà. Et alors finalement, après une brouille, c'est Johnny qui est revenu vers vous. Et
ouais, on s'est brouillé. Bon,
arrête ces histoires. Voilà.
On ne s'est plus parlé pendant 2 ans et demi.
Deux ans et demi, oui.
Et un soir, Régine venait d'ouvrir le New Jimmy's à Montparnasse. Et je parlais à Juliette Gréco et à Gainsbourg, parce que c'était l'époque où Gainsbourg et Gréco avaient une petite aventure. Et puis, tout d'un coup, la porte s'ouvre, arrive Johnny avec Sylvie. Johnny me fonce dessus, il m'attrape comme ça par le col. Il me dit, tu trouves pas que ça commence à bien faire, cette histoire de fâcherie et à durer? Allez, tu viens avec nous prendre un verre à côté, c'était là où les gens dansaient.
Ouais.
Et on s'est réconciliés, et c'est là où elle m'a dit, t'aurais pas une chanson pour moi, je pars à Londres après-demain. Et c'est comme ça que je lui ai écrit Comme un garçon, qui a fait le tour du monde.
Un de ses plus grands succès.
Ouais.
Je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections. Faut faire attention, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite fille. j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, comme un garçon, je n'ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis avec toi, je ne suis qu'une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon. Toi, tu n'es pas très attentionné, t'es décontracté. Mais avec toi, je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis une petite fille. Tu fais ce que tu veux de moi. Je suis une toute petite fille. C'est beaucoup mieux comme ça.
Comme un garçon, 1967, un petit bijou de la chanson. Ces arrangements, faut dire, c'est de Arthur Greenslade.
Oui, qui était l'arrangeur de Shirley Bassey et qui travaillait beaucoup avec John Barry. Ouais. Et c'est lui qui faisait tous les génériques des James Bond.
Voilà, c'est un musicien extraordinaire.
Formidable.
C'est plein d'idées.
Il a travaillé pour Gainsbourg aussi.
Et pour
pour Jane Birkin.
Alors, oui, il faut préciser d'ailleurs, le sifflement, là, qui accompagne la chanson, c'est?
C'est Carlos et moi.
Carlos et vous, voilà.
Et on nous a doublés. Alors, on est deux à siffler, puis après, ils ont doublé nos sifflets. Et
tout ça se passait à Abbey Road avec Mick Jagger dans le studio d'à côté.
À côté. Qui s'énervait après une guitare qui voulait pas marcher.
Voilà.
Alors, il s'énervait dessus. Alors, au bout d'un moment, je dis à Johnny, c'est drôle, il y a un Anglais à côté, j'ai l'impression qu'il va faire exploser sa guitare. Et puis, à un moment, Johnny me dit, il me fait, fais voir où c'est. Ben, je lui dis, c'est le studio qui est là. Et Johnny, il ouvre la porte, il tombe face à face avec Mick Jagger, qui s'est marré, qui a rigolé, qui est venu écouter la chanson. Et quand je le rencontre des fois à Amboise...
Parce que vous arrivez de le voir à Amboise.
Oui, parce qu'il est ami avec la famille Saint-Brie. Il siffle comme un garçon, il s'en souvient.
Voilà, un joli souvenir. Mais il y avait quand même, on voit ça aussi d'ailleurs avec Gainsbourg, avec Jane Birkin et d'autres artistes de l'époque, il y avait une espèce de patte anglaise dans les arrangements de l'époque qui était très spéciale. Peut-être pour ça qu'on allait enregistrer là-bas aussi.
Bien sûr, évidemment que c'était. Ben oui, c'était ça.
Voilà. Alors, on va terminer ce premier volet, puisqu'on va se retrouver la semaine prochaine, Jean-Jacques Debout, pour parler un peu plus des années 70, 80 et la suite. Là, on est à la fin des années 60. Il faut quand même dire, et on va terminer avec ça, qu'entre temps, eh bien, après une espèce d'étrange course-poursuite de quelques temps avec la jeune Chantal Goya, vous vous êtes marié en 1965.
Oui, à Nogent-sur-Marne.
Voilà.
C'est Roland Nungesser qui nous a mariés. Qui était le neveu des deux pionniers de l'aviation.
Nungesser et Colly, oui, bien sûr. Oui.
Voilà.
Voilà, et donc après, vous n'avez plus aimé qu'une seule femme, c'était Chantal.
Oui, et je pense qu'elle a été la chance de ma vie.
Vraiment?
Vraiment.
Oui.
Je pense que sans elle, je ne serais sûrement pas ici aujourd'hui en train de vous parler.
Voilà, vous avez formé un couple parfait, on va dire, alors. Et on va vous retrouver tous les deux dans... peut-être un mot de la chanson avant de l'écouter, Le monde tourne à l'envers.
Oui, c'était un duo que j'avais fait. On arrivait dans la mode du disco, et elle me dit, tiens, pourquoi tu m'écrirais pas un disco, ça changerait un petit peu et tout. Et puis je lui avais écrit, Le monde tourne à l'envers, qui a bien marché dans les boîtes de nuit, qui a marché très très bien même dans les boîtes de nuit à ma grande surprise.
Eh bien, merci Jean-Jacques de vous, et puis à samedi prochain.
D'accord.
pense à toi que j'aime tant. Je me dis encore une fois.
Chantal Goya et Jean-Jacques Debout en duo dans cette chanson enregistrée en 1987, Le Monde Tourne à l'envers, et c'est ainsi que se termine le premier volet de mon entretien avec Jean-Jacques Debout. Vous pourrez d'ailleurs retrouver une partie des chansons que nous avons entendues aujourd'hui dans un coffret qui vient de paraître. Il chante Jean-Jacques Debout, c'est sorti chez Marianne Mélodie, et ce sont donc toutes les chansons écrites par Debout, interprétées par d'autres, Johnny, Sylvie, Sheila, Rika Zaraï, Patachou, Barbara, Michel Delpech, Dalida, Michou et j'en passe. Un très beau coffret qui vient de sortir chez Marianne Mélodie. Et samedi prochain, nous retrouverons donc Jean-Jacques Debout pour le second volet de cet entretien. Nous évoquerons notamment les grands spectacles qu'il a conçus avec Zizi Jeanmaire et Roland Petit au Casino de Paris, ou encore les plateaux télévision de Mariti et Gilbert Carpentier, sans oublier bien sûr les nombreux spectacles avec Chantal Goya. Jean-Jacques Debout donc au programme samedi prochain.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour terminer cette émission, eh bien, je vous propose de retrouver comme au début un peu de musique viennoise, ou plutôt autrichienne, puisqu'il s'agit ici des danses d'Autriche de Max Schönherr, un excellent compositeur. Trois danses d'Autriche que nous écoutons par l'Orchestre Symphonique de Vienne, sous la direction de Manfred Honeck.
Thank you.
Le galop des paysans, c'est la plus célèbre des danses d'Autriche de Max Schoenherr, qu'on vient d'entendre dans l'interprétation de l'Orchestre symphonique de Vienne, sous l'excellente direction de Manfred Honeck. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Olivier Dupré et Marie Le Peintre, réalisation Christine Amadou. Et la semaine prochaine, ce sera donc le deuxième volet de mon entretien avec Jean-Jacques Debout, et il y aura aussi Barbara, Dalida, Chantal Goya et tous les autres autour de lui. Et tout de suite sur France Musique, vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.